BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, et qui nous concerne, nous usagers de cet immobilier et de ces logements. En l'occurrence, aujourd'hui, on va avoir un professionnel du courtage, du crédit immobilier, qui va lancer une petite alerte auprès des acquéreurs. Attention, méfiance, chers acheteurs, parce que vous savez, on a des conditions suspensives. Et ces conditions suspensives, elles ont un délai. Attention à bien respecter ce délai et à anticiper. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Bon, on va reparler logement neuf. On va se poser la question de savoir si ça y est, on a une sortie de crise qui pointe à l'horizon. L'un des deux invités, à mon avis, sera pas le plus optimiste de la bande. Mais vous le découvrirez dans quelques instants. D'abord, c'est l'heure du Pro de l'Immo.
Les experts de l'Immo, le Pro de l'Immo.
Et on est en ligne avec Laurent Arnoux, courtier en prêt à l'agence Vous Financez de Paris 2. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Allez-y, vous vouliez parler tout seul.
Très bien. Je souhaite attirer l'attention des futurs acheteurs sur un point trop souvent négligé, vous l'avez précisé, c'est la condition suspensive de prêt et surtout son délai. La condition suspensive de prêt, pour faire un rappel, c'est une protection, bien sûr, qui est inclue dans la promesse de vente et qui fait qu'un acheteur, pendant 30 jours, 60 jours, peut se retirer s'il n'obtient pas un prêt. Donc, une condition très importante pour se protéger. Mais attention, ce qui est moins connu, c'est que dès la promesse de vente, eh bien, ce délai, le compte à rebours est lancé. Et malheureusement, certains acheteurs qui tardent un petit peu à s'occuper de leur financement se retrouvent trop proches du délai des 30 jours pour lequel la plupart des banques vont refuser tout simplement même d'étudier le prêt. Donc, on se retrouve non pas
mais
avec
mais
des
refus. Mais ça veut dire quoi, Laurent? Ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai un refus de prêt, je ne peux plus faire valoir les conditions suspensives si je suis hors délai?
Complètement. Ben, c'est si vous avez trop tardé et même, vous avez raison de le dire, si au final, eh bien, ce sont des refus de prêt qui interviennent, eh bien, le vendeur sera tout à fait légitime, à minima, à garder le séquestre, puisque vous aurez dépassé ce délai. Il faut absolument faire valoir ce délai, généralement à 60 jours, avant les 60 jours, faire état des refus de prêt qui, malheureusement, sont intervenus.
Il y en a beaucoup des délais de 30 jours seulement, ça me paraît extrêmement court.
C'est quand même exceptionnel. Certains vendeurs particulièrement attractifs vont l'exiger, voire même, mais c'est un autre sujet, si je puis dire, demander à ce qu'il n'y ait aucune condition suspensive de prêt.
Ils n'ont pas le droit. Laurent, ils ont le droit, ça, les vendeurs, de supprimer toute condition suspensive?
Oh, c'est quelque chose auquel, on va dire, l'acheteur peut renoncer si, bien sûr, il n'a pas vocation à demander un prêt et qu'il sait qu'il a un paiement cash, comme on dit. Donc, il peut, en effet, se dire bien qu'il n'aura pas besoin de crédit et ne pas avoir cette condition suspensive.
Mais ça peut se négocier, ça, avant ou après? Et ça m'emmène à votre sujet, Laurent. C'est est-ce que, si je suis un peu prise par le temps parce que j'ai pas anticipé, ça peut arriver au meilleur d'entre nous? Est-ce que je peux demander une prolongation? Comment ça se passe?
Eh bien, malheureusement, dans le métier de courtier en crédit, on connaît bien ça, puisque certains ne nous contactent qu'à ce moment-là. Je suis trop juste, je vois se profiler la date de fin de condition suspensive de prêt. Là, la seule solution, c'est de demander, comme vous le dites, une prorogation, généralement 15 jours, voire 30 jours dans les cas les plus extrêmes, hein, puisque je répète, si on a dépassé ces 30 jours, les banques ne vont plus vouloir examiner notre dossier, donc faut vraiment qu'on ait une bouffée d'oxygène, si je puis dire, avec une prorogation. J'ai une cliente récemment qui n'a pas eu de retour de sa banque, qui n'a pas été très réactive elle-même pour relancer. On était un tout petit peu au-dessus à 32 jours de mémoire. Donc, bien sûr, on a pris son dossier. On a immédiatement demandé une prorogation de 15 jours qui a été acceptée par la vendeuse. Ça nous a permis, dès le lendemain, de déposer un dossier. Au bout d'une douzaine de jours, après quelques allers-retours, eh bien, d'avoir un crédit qui a été accepté et surtout un délai qui restait pour la banque de traiter le dossier administrativement. Parce que pourquoi les banques mettent en place ce délai de 30 jours minimum ? C'est parce qu'elles savent très bien qu'ensuite elles ont des délais pour produire l'offre, pour traiter le dossier en interne, pour valider avec différentes instances réglementaires. Et donc, eh bien, si on n'a pas, allez, 40-45 jours, ça devient très très juste pour traiter le dossier.
Eh ben, l'alerte est passée. Merci Laurent pour votre témoignage. Laurent Arnoux, courtier en prêt à l'agence Vous Financez de Paris dans le 2e arrondissement. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, Laurent Mouret, le directeur général de Link City France et président de Link City Île-de-France. Bonjour Laurent.
Bonjour Marie.
Et à mes côtés également, Norbert Fanchon, le président du groupe Gambetta. Bonjour Norbert.
Bonjour Marie.
Je disais que vous étiez traditionnellement pas le plus optimiste.
J'ai cru comprendre ça dans votre introduction.
Non, mais parce que on va soulever le capot de l'émission. Je reçois des notes de vos côtés, de discours que vous voulez passer, de votre sentiment de marché. Et c'est vrai que quand je lis les notes de Laurent versus les vôtres, j'ai plus envie de passer le week-end avec Laurant. Sentir, il est un peu plus optimiste.
Ça, c'est une annonce.
Non, parce que Norbert, vous me dites, en gros, la crise du logement neuf, elle est toujours là, alors que moi, ma question, c'était de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'en sortir de cette crise ?
Malheureusement, les derniers chiffres sont plutôt dans... Enfin, mon idée, c'est pas d'être pessimiste, c'est d'être réaliste pour trouver des bonnes solutions, pour faire un bon diagnostic, pour aller de l'avant. Et les chiffres, les derniers chiffres, je vous en donnais trois, moins 20, moins 40, fois 2.
Moins 20, je suis sûr que le x2, il n'est pas positif.
Exactement. Moins 20, c'est le nombre de réservations sur une année glissante, donc depuis mai 2025 sur mai 2026. Moins 40%, c'est le nombre de réservations en mai par rapport à mai 25. Mai, c'est toujours un mois bizarre, mais on fait quand même moins 40% à comparaison égale. Et x2, c'est le délai d'écoulement. On est passé en gros de 11 mois pour vendre un programme en totalité à 22 mois. Moyenne France, il y a même certaines métropoles qui sont à plus de 25 mois. Donc c'est 2 ans et demi pour vendre un programme immobilier. Ça veut dire que ça ne va pas bien.
Et il y a les annulations aussi. Moi, je me souviens de la Fédé des promoteurs immobiliers qui publiait des chiffres récemment là sur, je crois, c'est un quart.
La conséquence pour nous, c'est on a des clients, un coût de réservation qui a été multiplié par 3. Donc oui, des chiffres, et ils vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'avant, on payait une réservation 2 500 € quand on allait voir les sites. Je ne vais pas les nommer parce qu'ils nous coûtent déjà suffisamment cher pour éviter de faire de la pub. Aujourd'hui, on est à 7 500 €. Et donc, une réservation, c'est 7 500 €. Et on abandonne un quart de nos projets parce qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de réservations. Donc, on est malheureusement dans une boule de neige qui n'a pas fini de rouler. Et je pensais que 2025 serait pire que 26. Vous voyez, j'avais un bout d'optimisme. Mais dans l'immobilier neuf, pour... le logement collectif, je ne parle pas de la maison individuelle, 26 sera pire que 25.
Ça, c'est votre prévision?
Oui. Et je peux prendre le pari avec Laurent.
Alors, Laurent, quand même, Laurent, pour revenir sur les fameuses petites notes, Laurent, il voit quand même des petites raisons aussi d'espérer un peu, quand même, et notamment les permis de construire.
Les chiffres, quand même.
Ah non, Laurent, vous êtes dans la team optimiste.
Oui, je suis dans la team optimiste, mais ça n'empêche que les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Ce que dit Norbert. Est réel. Moi, j'ai regardé sur 12 mois glissants entre avril 25 et avril 26. Les logements autorisés, c'est moins 5,5% sur la moyenne des 5 ans. Donc, et sur les mises en chantier, c'est moins 15%. Donc, aujourd'hui, on n'est plus dans une question de point de vue, on est dans une question véritablement de contexte. Il va falloir faire avec. Et où je suis un petit peu optimiste, c'est que je vois quand même quelques curseurs, notamment sur la méthodologie pour produire du logement, qui sont en train un peu de bouger. Et c'est ça qui me fait que je suis peut-être un petit peu moins pessimiste que Norbert. Mais les chiffres, ils sont ce qu'ils sont.
D'accord, mais quand même, effectivement, on se dit, est-ce que c'est pas le contexte géopolitique qui a un peu empêché la reprise de se faire telle qu'on l'espérait pour 2026? J'entends évidemment la guerre au Moyen-Orient, les tensions sur l'OAT, la dette de l'État français à 10 ans, la perspective inflationniste et la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, le risque sur les coûts de matériaux. Oui, c'est horrible ce que je raconte. Mais le fait
que c'est moi qui suis pessimiste au final.
Non, je suis réaliste. Je connais quelqu'un qui dit ça. Mais Le fait est qu'on a la perspective d'un accord de paix, qu'on a le sentiment que ça pourrait un peu se calmer ces prochains mois, que par ailleurs, on a des hommes et des femmes politiques qui semblent enfin prendre le sujet du logement à bras-le-corps. On a un dispositif de soutien à l'investissement locatif. On a, voilà, est-ce que on a ce contexte aussi caniculaire de réalité sur l'électrification de notre bâti parce que notre dépendance aux énergies fossiles, est-ce que le mieux, c'est pas de soutenir le logement neuf aujourd'hui? Et est-ce que aujourd'hui, on n'a pas ce qu'il faut pour relancer la machine, en fait?
Moi, je pense qu'il y a nécessité, malgré tout ce que vous dites, qui peuvent nous laisser imaginer que, effectivement, les choses vont s'améliorer. Mais enfin, qui aurait pu prédire les frappes sur l'Iran il y a encore 18 mois? Qu'est-ce qui nous attend? On sait qu'il va y avoir une élection présidentielle. Ça, c'est a priori acquis. Il va falloir aussi que ça se mette,
attention, hein.
Il va falloir aussi que ça se mette en route. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, à mon sens, c'est deux choses. Un, c'est un véritable choc sur le foncier, c'est un choc de simplification. Et une deuxième chose, c'est que les investisseurs institutionnels, qui en général sont plutôt décriés et moins considérés que les acquéreurs particuliers, prennent leur part dans la construction de logements en vue de l'accession. Il y a quelques années, nous, on avait réfléchi, Selling City, à une formule qu'on avait baptisée le test and buy.
Ouh.
C'était un peu comme un leasing. Tester avant d'acheter. On vendait des immeubles en bloc à des investisseurs. On avait monté ça avec Inly du groupe Action Logement. Pendant 5 ans, vous êtes locataire. Et au bout de 5 ans, vous avez une option d'achat avec un prix prédéfini.
Ça existe déjà, non, dans le logement social, le PSLA.
Ça n'est que pour le logement social. Pourquoi ne pas le faire sur du logement LLI? On l'avait fait.
Intermédiaire.
Sur du logement libre. Et les 5 années où vous avez payé votre loyer, c'est votre apport personnel. Ça, ce serait un choc.
C'est une bonne idée, ça. Vous en pensez quoi, Norbert?
Je reviens sur la
question. Non, j'ai pas envie.
Je reviens sur la question. Parce que je pense que c'est une des solutions, effectivement. Est-ce qu'on pouvait imaginer tout ce que vous avez dit? Non. Est-ce qu'on pouvait imaginer que les taux ne resteraient pas à 1%?
Oui.
Est-ce qu'on pouvait imaginer que le Pinel serait terminé un jour, vu les finances publiques?
Oui.
Ouais, alors oui et non, parce que moi je me souviens, à chaque fois c'était, oui, ça coûte cher, mais on le continue, ça coûte cher, oui, mais on continue, puis on le change un peu, puis machin. Là, la disparition pure et simple.
Jusqu'au moment où on n'a plus pu.
Ouais.
Ce qui s'est passé.
Et jusqu'au moment où on ressort du jambrin quand on s'est rendu compte que finalement le Pinel c'était pas si mal, quoi.
Enfin... Mais l'erreur est collective et là elle vient d'abord de chez nous, c'est qu'on a accepté ce qu'on n'aurait pas dû accepter. On a accepté des surnormes, des surréglementations. Je vais pas vous parler d'encadrement des loyers, rassurez-vous.
Faites gaffe, hein. J'aime pas chez Norbert.
Parlons de la zéro artificialisation, des DPE, de l'ART, de toutes les normes environnementales, de tous les délais qu'on s'est pris pendant 10 ans, où on avait des taux bas et justement un bon dispositif, le Cellier ou le Pinel. Le Pinel étant le dernier. Mais tout ça fait qu'on a pu tout accepter. On a dit oui à tout. Et ce que ça a fait, c'est que ça a enrichi le coût de fabrication. Et aujourd'hui, pour moi, le constat que vous faites et la réponse, une des parties de la réponse de Laurent, c'est dire l'immobilier est trop cher. On a une crise de la demande. Je suis venu souvent sur ce plateau pour vous dire qu'on avait une crise de l'offre, qu'on n'avait pas suffisamment de permis.
Ouais, bien sûr.
Mais aujourd'hui, c'est paradoxal. Les Français veulent se loger, ont besoin de se loger en locatif, ont de l'argent pour acheter, mais on fait de l'immobilier neuf trop cher. Donc il faut qu'on trouve les clés pour faire moins
clé,
cher.
Laurent, le foncier, vous parliez du foncier. Comment on fait pour encadrer les prix du foncier? Faut les encadrer,
Je ne suis pas sûr qu'il faille les encadrer. Simplement, aujourd'hui, il y a des propriétaires fonciers qui sont l'État, qui sont les collectivités territoriales, qui sont les grandes entreprises de l'État. Je pense qu'il faudrait un plan qui permette, en assumant une décote ou en utilisant des montages particuliers tels que le bail à construction, vendre massivement des fonciers détenus par les collectivités avec une décote assumée. Ou alors avec un lissage sur 30, 50, 90 ans dans le cadre de bail à construction.
Mais parce que les propriétaires particuliers, eux, font pas de surenchères sur les terrains à bâtir, hein? Non, je pose la question, hein.
Alors après, il faudra bien sûr réfléchir à la fiscalité sur ces terrains-là, parce qu'effectivement, ils font un peu de la surenchère. Alors, je vais dire un peu comme Norbert, s'ils font de la surenchère, c'est qu'il y a des gens qui l'acceptent. Donc c'est aussi à nous, promoteurs, à nous discipliner sur le sujet.
Mais arrêtons de restreindre le foncier. Prenons l'exemple de la zéro artificialisation. Parce que oui, il y a de la surenchère, et effectivement, on est nombreux pour acheter un terrain, et donc du coup, on fait monter les prix. C'est vrai. Il y avait un article dans le Figaro, pour le citer, la semaine dernière, où les maires hésitent entre faire des data centers, souveraineté numérique, réindustrialiser la France, construire des usines, c'est l'indépendance de la France, et construire des logements, c'est mieux loger les Français, c'est le pacte social. Donc les maires, à cause de la zéro artificialisation, doivent choisir entre le dessert ou le fromage. Mais comment on peut en arriver là, dans un pays développé au XXIe siècle? Alors, moi je ne suis pas pour limiter la valeur du foncier, je suis pour libérer l'utilisation et revoir les règles d'urbanisme. On est sur des règles d'urbanisme qui sont figées depuis 40 ou 50 ans, on les a fait évoluer avec le PLU, le plan local d'urbanisme, mais on a fait de ces plans locaux des contraintes et pas des possibles. Il faut qu'on revoie notre perception du foncier, il faut vraiment l'utiliser. Quand on fait encore des parkings en sous-sol alors qu'on est à 500 mètres de transport public, c'est scandaleux. Quand on limite...
ça bouge un peu quand même dans les plans locaux d'urbanisme. Sur les parkings.
Mais d'accord, mais quand vous déposez le permis et qu'on vous le refuse parce que vous n'avez pas fait les parkings, je peux vous dire que ça ne bouge pas vraiment.
Dans les très grandes villes, c'est encore le cas ?
Mais évidemment. Parce que en réunion publique, le maire, il est percuté par ses électeurs qui disent il n'y a pas assez de parking, on n'arrive pas à se garer. Et c'est le, enfin, le
oui,
le maire,
mais vous avez quand même
ça.
Beaucoup de villes qui luttent contre la voiture aussi. Hein.
À Paris, oui.
Mais pas que. Hein, vous avez
Paris, il n'y a pas d'immobilier neuf, à part dans le 19e, mais pas suffisamment pour répondre à la demande. Donc, moins de parking, peut-être des data centers dans les logements, dans les immeubles de logement, et puis autoriser la hauteur. Quand on construit.
Ah bah ça, vous prêchez une convaincue.
Voilà, quand on a perdu un, deux étages dans certains plans locaux, enfin dans la réalité entre le possible et la réalité, pardon, on perd 30% de la constructibilité. Vous savez, hein, quand on peut faire 100 logements, on n'en fait que 70 à la fin. Et en général, c'est on perd de la hauteur. Donc, le sujet, ce n'est pas dans la réglementation, c'est plus dans libérons les énergies.
Et je pense qu'on a besoin de libérer les énergies aussi avec une vraie politique d'aménagement du territoire. Alors, je vais parler peut-être d'un petit peu d'histoire, je vais pas revenir à la Datar, mais aujourd'hui on manque, je pense, d'un vrai plan du logement avec des cibles de production par territoire et d'adaptation peut-être de la fiscalité dans certains territoires qui sont plus tendus que d'autres. Aujourd'hui on a une vraie difficulté, c'est que les maires, aussi les collectivités, n'ont plus les moyens d'accueillir
De nouveaux habitants.
Parce que ben, y a plus la taxe d'habitation, la fiscalité est telle qu'ils ont énormément de mal à construire et à financer les équipements publics nécessaires à l'accueil de nouvelles familles.
Vous voulez dire des écoles climatisées, tout ça ?
Par exemple.
Des écoles.
Et je pense qu'il faut les aider avec vraiment un ciblage dans les zones qui le nécessite.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'on peut les identifier, hein, ces villes ultra tendues qui ont
très facilement.
Bah, bien sûr, c'est ça. Voilà, vous parliez de data center, en termes de data, on a tout ce qu'il faut pour ça.
Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie politique nationale et qu'il soit reprise territoire par territoire avec des objectifs clairement définis, des incitations, peut-être quelques pénalités quand ça suit pas.
Ah, c'est joli ce que vous dites. Incitation, carotte et bâton.
Un peu.
On est au fond de la piscine. On pensait que le Jean Brun.
Ça fait 12 fois que vous me dites qu'on est au fond de la piscine. Elle est extrêmement profonde, cette piscine.
Exactement. Elle est plus profonde que je l'imaginais, ouais. Et qu'on l'a tous anticipé. Mais profitons-en pour bâtir autre chose. Alors, ça peut être effectivement l'aménagement du territoire. Ça peut être sur les règles d'urbanisme. Ça peut être de revoir les normes, l'empilement des normes et des réglementations qu'on a mis depuis 10 ans. On a le droit à un moment d'avoir pris des décisions. D'avoir pris des décisions souvent.
Mauvaises.
Non, en pensant qu'elles étaient bonnes ou en imaginant qu'elles étaient bonnes.
Ouais, enfin, on a tous faire des erreurs. Bonnes intentions.
Exactement.
Hein, voilà.
Mais l'erreur, ça serait de pas les corriger, ouais. Et de les continuer. Et donc profitons. Je dirais, au point où on en est. On annonce une loi Jean Brun,
mais justement,
pas,
messieurs, parce qu'il nous reste que 2 minutes 30, vous en avez pas du tout parlé. Je suis très étonnée parce que les promoteurs.
Il n'y a rien pour le neuf. Le ministre le déclare.
Bah, pourquoi il n'y a rien pour le 9 ?
Dans sa loi, il dit qu'il ne fera rien de plus pour le 9.
Que ce qui a été voté, dans la loi de finances pour 2026. Mais vous trouvez que c'est insuffisant à ce stade ?
On n'en mesure pas encore très très bien les effets pour l'instant.
C'est une façon de dire que c'est peanuts cacahuètes vos ventes en Jean Brun, c'est ça que vous êtes en train de me dire tous les deux.
Chacun a ses chiffres, mais aucun n'est bon.
Après, il faut aussi que le dispositif trouve sa place. Il faut que
c'est politique ce que vous me dites.
L'ensemble des vendeurs. Non, mais voilà, je sais que Bouygues Immobilier a formé tout un tas de vendeurs, mais
parce que c'est pas simple de compréhension.
C'est pas si simple. Il faut que les gens s'en saisissent. peut-être faut-il encore se donner un petit peu de temps. Je pense qu'il y a un sujet. Alors, moi, je suis pas tout à fait de l'avis de Norbert sur le côté normatif, notamment pour tout ce qui concerne l'environnement. Il faut pas qu'on baisse la garde. Il faut absolument pas qu'on baisse la garde. Par contre, on vit aujourd'hui avec deux codes, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement. Peut-être il y a quelque chose à faire en les mixant, les mergeant, en faisant quelque chose qui ne soit plus qu'un code et qui prenne en considération tout, mais dans une intégralité. Je pense qu'il y a aussi un problème méthodo. Je prends un exemple. On fait une opération sur les communes de Thiers-Orly, qui s'appelle Parc en Seine. C'était un IMGP. C'était la grande vague des inventons la métropole. Comment produire différemment? Mais aujourd'hui, franchement, ça marche. L'État est concerné. La métropole est concernée. Les villes sont concernées. On a monté des structures ad hoc avec des investisseurs institutionnels. Et aujourd'hui, on produit du logement Et même, grâce à l'effet de masse, on baisse nos coûts et on augmente nos performances environnementales. Je pense qu'il y a un sujet vraiment méthodologique pour pouvoir y arriver en réunissant autour du même projet tous les acteurs qui contribuent à la chaîne de valeur.
Pour avoir des intérêts partagés. Le mot de la fin, bien Norbert, sûr. Il reste 40 secondes.
Pourquoi notre sujet, c'est défendre le logement des Français. Enfin, on n'est pas en train de défendre notre profession, ce qui me paraît à chaque fois important de le rappeler. Parce que les Français ont besoin de se loger. C'est aussi la possibilité, quand on devient acquéreur, de se constituer un patrimoine, de bénéficier d'un effet de levier. Enfin, l'immobilier neuf a tout un tas d'avantages.
Oui, et puis par le crédit, on en parle assez régulièrement. C'est qu'en ce moment, si vous voulez faire un crédit immobilier, enfin, les meilleures conditions sont à celles et ceux qui achèteront du logement performant et donc du logement neuf.
Donc, franchement, l'immobilier neuf, il faut ne pas hésiter à acheter, même si la rentabilité est faible, mais en effet de levier, patrimoine et crédit sont les clés essentielles.
Et pas de frais de notaire.
Des frais de notaire tout à fait réduits. Merci de
réduits, voire supprimés par certains promoteurs généreux.
Et ce que je voulais rappeler, c'est que c'était aussi une création de richesse pour la France. Chaque fois, j'ai l'occasion aussi de le redire, un logement neuf de 200 000 euros, c'est 100 000 euros de revenus pour l'État, entre les TVA, les taxes collectées sur 20 ans. Donc quand on a perdu 150 000 logements sur 5 ans, enfin sur 3 ans, même entre 2023 et aujourd'hui, 150 000 logements, on a perdu, fois 100 000, on a perdu 15 milliards d'euros. C'est 10% du déficit cette année. Donc quand on cherche des économies, quand on cherche à créer de la croissance, de l'activité économique, le logement neuf est là.
Mais oui. Et c'est de l'emploi,
C'est de l'emploi et c'est d'argent dans les caisses publiques, c'est bien de le dire aussi, puisqu'on est à l'aube de notre futur débat budgétaire pour 2027. Ce sera donc le mot de la fin, messieurs. Merci à Norbert Fanchon, le président du groupe Gambetta, d'avoir été avec nous, et Laurent Mourel, directeur général de Link City France et président de Link City Île-de-France. Les experts de l'IMO reviennent demain lors de votre déjeuner sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.